Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7. Nous avons la chance de nous retrouver pour une nouvelle émission des Mille et Une Bulles. Cette fois, nous rencontrons un auteur qui est à la fois dessinateur et scénariste. Je présente donc aujourd'hui Monsieur Philippe Lugui. Comment allez-vous, Philippe Lugui?
Eh bien, ça va, je vous remercie. Ça va bien. Je suis sur la route actuellement. Je me suis arrêté. Et comme je me dirige vers la Normandie, je ne vous offre pas de soleil, mais beaucoup de pluie. Ah. Voilà.
Eh bien, en échange, malheureusement, je ne pourrais pas vous offrir du soleil parce que nous aussi, on a la pluie. Vous voyez, comme quoi?
Eh bien, voilà, voilà.
La France est inondée. Donc, monsieur Lugui, donc, alors, vous avez déjà devant vous plus de 35 ans de carrière. Donc, pour résumer, ça va être compliqué, mais on va prendre les principaux axes de votre carrière. Mais en premier, la question rituelle que je pose à tous les auteurs que j'invite, c'est quels sont les BD ou les auteurs qui ont bercé votre enfance, monsieur Lugui?
Oh bien, écoutez, vu mon âge, c'est assez vite fait. Il y a eu Hergé, bien sûr, avec Tintin. Je me souviens de certaines frayeurs dans Tintin, quand je le lisais, notamment, évidemment, la momie de Raskar Kapak. Mais aussi quand le Yeti déclenche le flash de Tintin dans Tintin au Tibet, etc., etc. Et j'ai le souvenir de Michel Vaillant aussi, le trait de départ, ce genre de Mestrapontin aussi, enfin tout un tas de séries comme ça qui m'ont fait vibrer. Et puis aussi, un album qu'on m'avait offert quand j'étais malade, parce que quand on était gosse, on attrapait plein de trucs, évidemment. Et c'était Bibi Fricotin et les Martiens. Et j'ai récemment un ami qui m'a offert l'album Bibi Fricotin et les Martiens. Et c'était très rigolo, parce que j'ai bien retrouvé toutes les images que je n'avais pas oubliées.
Ah mais Bibi Fricotin, oui, je connais. Je connais même la personne qui les redessine avec Jean-Pierre Tibéry.
Je crois qu'il c'est Philippe Lafitte. Jean-Pierre Tibéry m'a d'ailleurs offert une page de Christian Lacroix. Mm-hmm. Et c'est lui qui m'a offert le Bibi Fricotin et les Martiens en question. Et c'est rigolo parce qu'en fin de compte, on est dans un coin de sa tête, mais quand on revoit les images, tout revient immédiatement. On n'oublie pas en fin de compte.
Tout à fait. Donc, j'ai vu dans votre bibliographie, donc, vous avez débuté tôt, à 18 ans, si j'ai bien compris, la BD. Et à l'époque, vous avez rencontré des auteurs comme, je crois, Godard et Pelos, qui vous ont encouragé et conseillé à l'époque. Vous en avez gardé quoi de ces rencontres?
Ah, ben, d'abord, des moments extraordinaires, des complicités, de la simplicité, de la gentillesse. Christian Godard est un homme vraiment exceptionnel, super. René Pelos aussi, il m'a raconté, je suis allé chez lui, il habitait Gaillard, à côté d'Annemasse. Et c'était une espèce de d'homme grand, presque un acteur de ciné. Et à 75 ans, il avait encore une petite trillon férale de décapotable pour se déplacer, etc. Et à la montagne, là-bas, en Savoie, c'était une super vedette. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir des courriers de lui, notamment, et il m'écrivait, moi j'habitais à Paris, chez mes parents, et il m'écrivait avec des tonnes de dessins sur les lettres, et notamment des montagnes déjà, qui faisaient des pieds de nez à la tour Eiffel, qui étouffaient dans les gaz d'échappement, voilà. Donc, on avait déjà ça. Et Christian, lui, Christian Godard, entre autres, quand je suis allé chez lui, il habitait rue de Chazelle à Paris, dans le 16e arrondissement. Et la première fois que j'y suis allé, il m'a reçu pour me donner des conseils en dessin, pour critiquer mes dessins, me dire ce qu'allait, ce qui n'allait pas, etc. Et j'étais étonné parce que d'un seul coup, j'ai entendu un vrombissement dans la pièce. Et c'était un petit oiseau, un petit serin qu'il avait, et dont la porte de la cage était tout le temps ouverte, et l'oiseau, quand il en avait envie, faisait un petit tour dans la pièce, dans le séjour, et vous passez au-dessus de la tête et puis retournez dans sa cage. Voilà. Et là, je me suis dit, ce type-là, c'est quand même un mec mignon, quand même.
Ouais, mais c'est mignon comme anecdote. Et alors, à l'époque, je sais qu'avant de publier votre première BD, vous avez publié différentes planches dans les magazines de l'époque, comme j'avais vu Frimousse, Hakim, Kiwi, Fripounet, entre autres. C'est là que vous avez fait vos premières armes?
Oui, alors, on avait la chance, à l'époque, effectivement, d'avoir des quantités de journaux destinés à la jeunesse. Et donc on faisait nos armes à coups de une page de jeu par-ci par-là, un labyrinthe, une illustration, un cul de lampe, enfin etc. Et donc tous ces petits travaux s'égrenaient dans les Hakim, Lancelot, Frimousse, Princesse, tous ces journaux qu'on appelle les fumettis, c'est-à-dire les petits formats qu'on trouvait dans les kiosques à journaux. Et donc je n'ai pas gardé beaucoup de traces, parce qu'on ne récupérait pas les originaux. Les originaux partaient dans la nature. Voilà. Mais ça permettait quand même de faire les armes. Excusez-moi, oui.
Oui, oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc là, c'était vos premières armes. Et en fait, votre toute première BD, c'était en 1977. C'était Cyril et le château des mille diamants, c'est ça?
Oui. Alors ça, c'est le premier album.
Oui.
Premier album. Et je l'ai fait aux éditions Garnier. Le directeur de collection, c'était un garçon, je sais pas s'il est toujours plus ou moins dans la bande dessinée, qui s'appelait Minouchin, et qui avait créé un fanzine du nom de Submarine. Voilà, parce qu'il y avait eu les Beatles avec Yellow Submarine.
Ah oui, la vision.
Et voilà, et donc j'avais déjà publié quelques bandes, des strips, en fin de compte, de gang. Et puis un jour, il m'a dit, ben voilà, je suis directeur de collection. Et il y avait Christian Goux aussi. Et Christian a fait un album ou deux de Saucisson Smith. Et moi, j'ai fait ce premier album qui était bien fabriqué. Et c'était la maison, ils étaient au 19 rue des Plantes. Alors, je vais vous dire, vous voyez, je me souviens bien. À Paris, c'était les éditions Garnier, qui étaient l'éditeur de Benjamin Rabier, entre autres.
D'accord. Voilà. Et j'ai vu, donc après, une série que j'affectionne particulièrement, parce que je l'ai découvert plus tard, mais je l'ai découvert, comme tout le monde, c'était donc Les Aventures de Silvio le Grillon. C'est une BD, pardon, que vous avez fait dans PIF, jusqu'en 1982, je crois. Et le premier tome est sorti en 88 avec le titre qui m'a fait rire, c'est « Petite histoire pour les cafards ». Comment vous est venue l'idée de ce petit crayon qui a fait quand même 5 albums?
Bah écoutez, non, il va en faire même plus, hein, parce que j'ai de quoi, je crois, au niveau matériel, si je compte, de quoi faire à peu près 10 ou 11 albums.
Ah, bien.
Mais l'idée de Silvio, c'est qu'à l'origine, je voulais faire du dessin animé. Et ce qui m'a donné envie de dessiner, parce que je savais pas dessiner quand j'étais jeune, c'est le fait d'avoir vu un film de Disney, parce que je vois pas ce que ça pouvait être d'autre comme dessin animé, et de ressortir du cinéma ému, parce que ce qui m'a touché, c'est le fait que moi-même, j'étais bien sûr, j'avais vécu le film, je m'étais laissé emmener dans le film, et qui devait être probablement le Cendrillon ou quelque chose comme ça, certainement. De mémoire, ce serait certainement Cendrillon. Bien que j'avais été très marqué par Peter Pan avant, d'ailleurs.
D'accord.
Et j'ai trouvé extraordinaire qu'on puisse émouvoir le public avec des personnages de papier, avec des personnages dessinés. Et donc, mon ambition, c'était de devenir, modestement, à l'âge de 15-16 ans, le Walt Disney européen. Mmh. Et il se trouve que là où habitaient mes parents, il y avait un ingénieur électronicien qui, entre autres, sonorisait les salles de cinéma. Et lui, de ce fait, connaissait Paul Grimaud. Oui. Qui était le créateur du Roi et l'Oiseau, la Bergère et le Ramoneur, etc., sur le scénario de Prévert. Et me voyant dessiner tout le temps, parce que j'arrêtais pas, il me dit, mais pourquoi tu vas pas montrer, puisque tu veux faire du dessin animé, pourquoi tu prends pas rendez-vous avec Paul Grimaud? Et j'avais 16 ans, et c'est ce que j'ai fait. et je suis allé au studio de Paul Grimaud, qui était rue Bobillot à Paris, dans le 13e. Et il a eu la gentillesse de me recevoir, et il a eu la gentillesse de m'encourager. Et en me disant, mais ce que vous faites, c'est pas mal, c'est sympa. J'ai le souvenir maintenant de ce que je faisais, correspondait à des dessins d'un garçon de 16 ans qui savait pas dessiner. Mais il ne m'a pas découragé, il m'a encouragé.
Et heureusement, maintenant, vous en êtes là, on va dire, plus ou moins grâce à lui, grâce à ses encouragements. Par contre, après, je voulais parler, parce que je veux pas oublier, parce que cette série, pour moi, c'est une série phare, je pense même une série culte, c'est votre légendaire Percevant. Comme le premier tome est sorti en 1982 déjà, il y a 20 tomes. Racontez-nous la genèse de ce légendaire personnage.
Eh bien, c'est simplement la rencontre de Léturgie qui un jour m'a téléphoné en me disant « Bonjour Monsieur Lugui, voilà, je m'appelle Jean Léturgie, j'ai une idée, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer ?» Donc il est venu chez moi, à Paris, et en fait il avait rien. Il est allé un peu aux flammes avec une petite idée dans la tête, mais pas grand-chose. Il n'avait pas un scénario construit ni quoi que ce soit.
D'accord.
Et on a sympathisé et on a décidé de créer Percevant. Donc le nom de Percevant, c'est l'invention de Léturgie. Quelques jours après, il m'a dit si on l'appelait Percevant, ce héros, etc. Et on a décidé de partir à l'aventure. Alors Jean était plus dirigé vers l'humour, un petit peu, on va dire, à la Goscinny, c'est ce qui lui plaisait. Et puis moi, j'aimais bien le côté fantastique, merveilleux, etc. Et ça s'est fait comme ça, ça s'est construit comme ça, par notre communauté de création à tous les deux. Voilà.
Ah, parce que j'avoue, vous voyez, voilà, j'ai vu les 20 tomes, j'en ai lu. Ça, c'est vrai, et c'est pour ça que, oui, Percevant, c'est... On peut dire honnêtement que ça fait quand même une partie des BD qui ont bercé mon enfance, parce que moi, je suis pas non plus tout jeune, donc voilà, c'est des BD que j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que quand vous avez été à une époque un festival dans l'Aveyron, j'avais eu le plaisir de vous rencontrer, même si ça avait duré que 5 minutes. Donc c'était un grand plaisir.
C'est gentil.
Il n'y a pas de souci. Juste un dernier petit mot, parce que malheureusement, on va faire la pause musicale, parce que ça passe vraiment trop vite à votre compagnie. Mais vu votre carrière, vu vos 35 ans de carrière derrière vous, est-ce que vous auriez des conseils à transmettre, ou des petits messages amicaux à transmettre à la nouvelle génération d'auteurs BD, parce que vous devez en croiser beaucoup, des jeunes qui poussent derrière, comme on dit.
Oui, alors c'est pas 35 ans hein, de carrière, c'est hélas ou heureusement, je sais pas, en tout cas c'est bien vêtements bien, c'est 55 ans.
Oui, hein. Je peux approcher 35 ans, oui, parce que c'est vrai que depuis autant pour moi.
Oui, le temps passe vite.
Je vous ai rajeuni.
Le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de croire en soi, de donner le meilleur de soi-même au moment où on fait les choses, de ne jamais se décourager. Et puis de continuer vaille que vaille et quoi qu'il arrive. Et c'est la seule chose qu'on puisse donner. Donner le meilleur de soi-même au moment où on le fait, je crois que ça, c'est très important. C'est vraiment l'essentiel, à mon sens.
Eh bien, écoutez.
Et la persévérance, bien sûr, persévérance et beaucoup de travail. Parce que quand j'entends les gens qui me disent « vous êtes doué », etc., je ne suis pas doué, je suis quelqu'un qui n'était pas plus doué que mon voisin, mais j'ai beaucoup travaillé, donc c'est 90-95% de travail. J'en discutais justement hier avec Franck P, on était au restaurant tous les deux dans un festival, et on parlait de ça justement, de sans travail on n'arrive à rien, voilà, c'est tout bête.
Donc exactement.
travailler, croire en soi et foncer, et y aller.
Voilà, il faut pas faire que rêver, comme on dit, faut avancer. Mais écoutez, monsieur Lucky, nous allons faire cette petite pause avec un morceau que vous affectionnez particulièrement de Santana, c'est Black Magic Woman, et nous nous retrouvons toujours dans les mille et une bulles avec Radio Présence. Merci.
Présence à Figeac 97.7. Thank you. woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks.
Voilà, après ce splendide morceau de Santana, nous sommes toujours donc dans les mille et une bulles. Cette semaine, nous accueillons donc Philippe Luguy, l'auteur, entre autres, de Percevant, mais après 55 ans de carrière, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que Percevant. Monsieur Luguy, donc encore merci d'être avec nous.
Je voulais donc
faire juste un petit aparté, parce que bon, je sais que vous avez énormément de choses à faire au niveau de la bande dessinée, mais j'ai une petite rubrique toute courte qui s'appelle « Il n'y a pas que la BD dans la vie ». Alors donc, est-ce que Monsieur Luguy, vous avez le temps de faire autre chose que la BD ?
Écoutez, autre chose que la BD, oui, je fais d'autres choses, notamment j'ai acquis il y a fort longtemps une maison que je restaure, donc vous savez qu'un proverbe chinois dit que un homme qui a fini sa maison a fini sa vie, donc je passe mon temps à continuer à refaire la maison, parce que j'ai pas envie de finir ma vie.
Joli, c'est joli. Je l'attendais en plus, c'est très joli, oui.
Voilà, et puis je fais de la cuisine parce que j'aime bien la convivialité, Et donc j'aime bien. Il y a un plaisir égoïste à aller choisir les aliments, faire le marché, etc. Et puis il y a un grand plaisir à faire plaisir aux autres. Et quand les convives commencent à ne plus parler et qu'on n'entend plus que les bruits de fourchette, c'est qu'on a gagné. Voilà.
Exactement.
Et puis je vous ai passé Santana parce que évidemment. Ça a été un de mes grands regrets, c'est aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, c'est de ne pas faire de guitare, parce qu'il a un toucher tout à fait particulier, et c'est pas le seul d'ailleurs, et j'ai cette passion des guitares, et j'ai gratouillé de la guitare, et ça reste un de mes rêves, mais c'est très bien de toujours avoir des rêves dans la vie.
Tout à fait, c'est ce qui fait avancer. Donc, vous parlez d'un proverbe chinois. Eh bien, je vais proposer, donc, histoire, ce que je fais à chaque fois pour rencontrer connaître les auteurs un peu mieux, dans ce qu'on appelle un portrait chinois, monsieur Ligui.
Oui.
Donc, voilà, je vais vous poser des questions, et au tac au tac, ce qui vous vient, comme ça, vous, voilà. Voilà. Donc, c'est des questions toutes simples, mais, à vous de, voilà. Je vous laisse faire. Donc, si vous étiez, monsieur Ligui, un animal sauvage, lequel seriez-vous?
Ah. Un animal sauvage, oui. Alors écoutez, je dirais un éléphant.
Hein?
Parce que quand j'étais gosse, j'avais vu un film qui s'appelait Daktari. Et ah, oui. Il y avait des petits éléphants dans ce film. Et j'aurais aimé avoir un éléphant. Alors autant que je sois un éléphant, pas pour écraser les gens. Parce que je trouve qu'il y a une forme de philosophie chez cet animal.
Et vous avez aussi je vais faire un jeu de mots, vous avez une mémoire d'éléphant du coup?
Ben, je sais pas, j'essaie de l'avoir, en tout cas. Mais je ne trompe pas. Voilà.
Déjà, c'est ça. Deuxième question. Voilà. Si vous étiez une planète, vous seriez laquelle?
Difficile à dire parce que j'aime bien l'univers. Donc, j'aurais tendance à aimer l'univers en entier. Une planète. Laquelle a des anneaux, c'est Saturne?
Oui.
Hein?
Oui, Armand me confirme, parce que mon acolyte de la technique est toujours dans la Lune, on s'y connaît bien en planète.
Ben voilà, donc la Lune, elle est sympa parce qu'elle éclaire les amoureux. Donc
ah.
C'est sympa.
Ouais, c'est joli, alors. Ouais.
Voilà. Et Saturne, je prendrais Saturne parce qu'elle danse et que elle fait du hula hop.
Ah oui, joli. Ah oui, avec l'anneau, oui, tout à fait. Ah, jolie métaphore.
Voilà. Alors on va prendre ces deux options.
Ok, il n'y a pas de souci. Et pour finir, alors c'est plus les planètes, dernière question monsieur Ligui, après malheureusement on devra se quitter, c'est toujours trop rapide. Si vous étiez une émotion, laquelle seriez-vous?
Ah, c'est pas simple à dire. Une émotion.
Oui, pas facile.
Ah, non, c'est pas très facile une émotion. Mais j'aurais tendance à dire une émotion, le sentiment amoureux.
Ah oui, joli. C'est une jolie émotion.
Et oui, c'est une belle émotion, cette émotion qu'on ressent quand on rencontre quelqu'un et que d'un seul coup, les planètes se réunissent.
Ah, et joli. T'as vu, Armand, tu le dis comme il dit, ouais, très bien.
Ouais.
Écoutez, on va finir sur ces belles paroles, monsieur Ligui, parce que bon, voilà, malheureusement, l'émission a une fin.
Oui, ça passe très vite.
Je vous remercie encore d'avoir accordé de votre précieux temps. J'en profite donc, je suis à l'antenne de, bien sûr, comme nous sommes à 2-3 jours de Noël, de souhaiter aux auditeurs de la Radio Présence un joyeux Noël et avec un peu d'avance des fêtes de fin d'année. Si vous voulez laisser aussi un petit message, monsieur Ligui, à nos auditeurs.
Eh bien oui, j'espère des fêtes de Noël heureuses, joyeuses, avec plein de cadeaux pour ceux qui peuvent et plein d'amour. Et puis pour les fêtes de fin d'année, on peut la fête, la rigolade, parce que je trouve que le monde est assez sinistre en ce moment. Donc que au maximum du bonheur, de la joie. Et puis si je peux faire un petit souhait égoïste.
Allez-y.
Eh ben, plein de lecteurs pour moi.
Eh ben voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est plein de lecteurs pour vous. Il n'y a pas de souci. Nous, bien voilà. Sûr, c'est avec plaisir qu'on va garder nos auditeurs. On leur souhaite aussi, donc, joie et bonne humeur.
Joyeux Noël et des joyeuses fêtes, bien sûr.
Voilà. Et voilà. De garder la joie et la bonne humeur au micro de Radio Présence Fija 97.7. Merci, monsieur Ligui. Merci d'avoir accepté d'être dans Mille et Mille et Une Bulle. Et bien sûr, on continue à suivre votre carrière à travers vos albums. Merci, au revoir.
C'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir.
Avec plaisir, monsieur. Au revoir.
Au revoir.
Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.